Et au menu de notre club des têtes au carré aujourd'hui, la viande qui fait trembler nos assiettes, les photos de Doisneau au muséum, de la science-fiction à Nantes et une main bionique sur un homme qui ne vaut pas tout à fait 3 milliards. Je vous présente mes invités dans un instant et vous pouvez déjà nous envoyer vos courriels sur le site de l'émission sur franceinter.fr. 10% des enfants de moins de 2 ans s'endorment avec des écouteurs et c'est à la une de la science aujourd'hui. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu, oui, c'est une des révélations inquiétantes du sondage Tous sourds face au risque auditif mené par l'Ipsos avec l'association La Semaine du Son et la Direction Générale de la Santé. On enlève son casque dans un instant pour faire le point sur les risques avec vos questions sur Twitter.
C'est Céline Hila qui est aux commandes de notre club aujourd'hui et c'est Emmanuel Fournier qui a préparé le dossier.
La tête au carré, le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Les risques cancérogènes de la viande, Doisneau au muséum, une main bionique et les utopiales à Nantes, ce sont donc les sujets dont nous allons parler dans notre club aujourd'hui avec mes invités Claude Fischler, Alice Lemaire, Nicolas Huchet. Bonjour à tous les trois. Bienvenue. Claude Fischler, la publication cette semaine d'une étude sur les risques cancérogènes d'une trop grande consommation de viande a suscité beaucoup de réactions, beaucoup d'émotions. Est-ce que vous pensez que cette étude est susceptible de modifier en profondeur les comportements des consommateurs?
Non.
C'est votre réponse laconique.
Vous nous avez demandé de faire bref.
Un peu plus quand même.
Disons que c'est un processus qui a commencé déjà en Occident et en France en particulier depuis le milieu des années 80. Mm-hmm. Et la mise en cause croissante, la baisse, etc. Et le tout dans un contexte d'inquiétude et d'anxiété accrue par le nombre et le caractère contradictoire des informations qui sont déversées sur les mangeurs.
Vous nous donnerez donc votre analyse en tant que sociologue de ce sujet, Alice Lemaire, des images rares de Robert Doisneau au muséum. On trouve encore des photos de ce photographe qui n'ont pas été montrées au public?
Oui, le Muséum d'Histoire Naturelle a la chance d'avoir fait l'objet de deux reportages de Robert Doisneau. Le premier était oublié, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas très inexploité et quasiment inédit. Oui, il a eu lieu en 42-43. Et ensuite, Robert Doisneau est revenu en 90, 50 ans après, pour faire un retour sur les lieux de sa première chasse aux chercheurs, comme
voilà,
il disait.
Avec le Muséum, le Musée de l'Homme, le Zoo de Vincennes également. Oui. On retrouve ces clichés, la grande galerie de l'évolution. On en parlera avec vous dans quelques instants. Et puis une main bionique avec nos partenaires de TEDx Paris, Nicolas Huchet, bonjour.
Bonjour.
Où en est le prototype aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, on travaille sur un deuxième prototype open source, toujours.
Oui.
Le premier prototype était développé par Gaël Langevin du projet InMove, un français donc, de Paris. Le deuxième prototype que nous, on améliore, est développé par une start-up anglaise qui s'appelle Open Bionics et qui donc met les plans de la main bionique open source.
Oui. Est-ce que vous la portez, vous, déjà, cette main bionique ou pas?
Je la teste, mais je ne la porte pas. Non, ouais. Car elle n'est pas encore au point. Par contre, elle est dans mon sac. Si vous voulez, je peux vous la montrer.
On en parlera tout à l'heure, évidemment, et vous nous la décrirez. Et puis, on partira à Nantes pour retrouver Roland Lehoucq à l'occasion de la nouvelle édition du Festival des Utopiales à la Cité des Congrès. L'occasion de s'interroger sur la science-fiction et le réel cette année. Les tout-petits qui s'endorment de plus en plus avec des écouteurs sur les oreilles, c'est à la une de la science aujourd'hui. La berceuse du troisième millénaire avec ses enfants. 10% d'entre eux de moins de 2 ans s'endorment donc régulièrement avec un casque sur les oreilles. C'est un chiffre choc issu d'un sondage qui fait bondir les ORL et les professionnels de l'audition. Jean-Louis Orviller, bonjour, vous êtes avec nous par téléphone.
Bonjour, Mathieu.
Bienvenue pour l'association La Semaine du Son. Vous êtes audioprothésiste. Vous avez coordonné ce travail avec l'Institut Ipsos et le soutien de la Direction Générale de la Santé. La berceuse chantée par maman remplacée par un casque, c'est une réalité? C'est quelque chose qui vous inquiète beaucoup aujourd'hui, Jean-Louis Orviller?
C'est un des éléments qui sont ressortis. Bon, c'est peut-être un des plus spectaculaires. C'est pas le seul, mais oui, c'est quelque chose de, disons que c'est un indicateur sociétal un peu étrange.
Oui, 10% des parents, c'est beaucoup comme proportion, non?
C'est beaucoup. Maintenant, ils n'avaient pas le regard de l'autre en faisant ce questionnaire, donc il est possible qu'ils se sont, ils ont donné une donnée qu'ils n'auraient pas donnée autrement.
Ouais. Est-ce qu'on sait combien de temps les parents laissent le casque sur les oreilles de leurs petits en moyenne ou pas? On a des chiffres là-dessus?
Alors actuellement, je les ai pas dispo, mais on a posé des questions sur le, on a posé des questions sur les durées. Il faudrait que je vous ressorte.
Eh ben écoutez, si vous avez ça sous la main avant la fin de notre rendez-vous, vous pourrez nous les livrer. Axel.
Oui, l'enquête, bien sûr, c'est pas intéressé qu'aux tout petits. Les adolescents aussi, eux, sont 95% à utiliser des casques régulièrement et souvent trop fort. C'est eux qui vous inquiètent le plus ?
Oui, en fait, c'est plutôt le comportement. Enfin, ça nous inquiète pour tous, en fait. Les plus jeunes, donc, c'est inquiétant parce qu'ils ne sont pas à même à l'âge où ils sont capables de toucher le curseur. Ils sont pas forcément capables de gérer leur volume, de faire des pauses, de savoir un petit peu ce qu'il faut faire. Et puis, les plus grands, effectivement, consomment beaucoup plus. Et voilà, quoi. Donc,
comment on explique ce phénomène ? C'est le fait, justement, d'être incapable de baisser le volume des écouteurs. C'est quoi ? Un manque de sensibilisation, d'abord ?
Alors, il ne faut pas nier le plaisir de l'écoute à fort volume. Sinon, ce serait pas normal. Si oui, bon, bah, ça fait plaisir. En plus, les signes de souffrance de l'oreille n'apparaissent pas forcément pendant l'exposition, mais à l'arrêt de l'exposition. Hein. C'est, on le rappelle, une impression de coton dans les oreilles, donc une bésaudition, ou un acouphène, donc un bruit qu'on entend qui vient pas de l'extérieur, sifflement ou bourdonnement, ou alors encore une hyperacousie, donc la sensation d'entendre un tout petit peu plus, enfin de la sensation d'entendre plus fort que la réalité, en fait, un décalage de la sensation d'intensité.
Quels sont les dommages auxquels on s'expose quand on écoute trop fort de cette manière ?
Alors, trop fort, trop longtemps et trop souvent, hein, il faut bien prendre en compte les trois paramètres. En fait, à long terme, les cas les plus spectaculaires donc vont avoir des problèmes rapides, et les autres, c'est une accélération de l'usure de l'audition, la presbyacousie. Donc, on a un capital audition qui est maximal quand on est, ensuite, il se gère.
Oui, il y a un de vos confrères, le professeur Klein, hein, qui a déclaré ce matin concernant cette génération. On va en faire des sourds à 30 ans. Vous partagez ce catastrophisme ? Il y va un petit peu fort là sur son analyse ou pas ?
Je suis pas professeur. En fait,
vous avez une opinion quand même, non, sur le sujet ?
C'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que certains cas vont devenir très rapidement malentendants, et d'autres. Ça va simplement accélérer l'usure de leur audition.
Est-ce qu'on peut comparer ça avec une exposition au soleil, c'est-à-dire est-ce que trop longtemps, trop souvent, répéter, c'est ça qui risque d'endommager l'oreille ?
Exact. Et, enfin, si vous voulez, ça peut se comparer en fait à une exposition au soleil, sachant qu'on est tous inégaux devant les coups de soleil, hein, on est tous inégaux devant le risque auditif, mais c'est vrai qu'il faut alerter un petit peu sur ce problème. Hein,
pardon, vous terminez votre phrase ?
Non, je dis sur ce problème de faire attention, mais simplement c'est très personnalisé. C'est-à-dire que le seul moyen de savoir si on exagère ou pas, c'est d'avoir des tests d'audition réguliers.
Oui. Jean-Louis Hurwiller, qu'est-ce qui est le plus important ? C'est limiter le volume ou la durée d'écoute au casque, finalement ? S'il y a un mot d'ordre à faire passer ?
Le mot d'ordre, c'est bonne gestion, donc durée, répétition. La répétition, c'est vrai qu'on demande de moins écouter, donc ça c'est peut-être plus difficile, mais au moins de faire des pauses, c'est-à-dire que le ministère de la Santé recommande 10 minutes toutes les 45 minutes ou 30 minutes toutes les 2 heures, et une simple pause de 10 minutes dans une heure d'exposition, c'est déjà la première...
La première quoi, pardon ?
La première règle qui est un petit peu ignorée, hein, c'est ce qui ressort de l'étude, en fait. Mm-hmm. Donc, faire des pauses, c'est déjà un des messages qui n'est pas trop passé. Est-ce que le volume, tout le monde y pense, en fait.
Mmh. Allez, une dernière question, Axel.
Vous espérez faire réagir les pouvoirs publics avec des contraintes pour les constructeurs ou quelque chose de particulier ?
Plus que ça, en fait, notre espoir, c'est une éducation à la santé un tout petit peu plus précoce et un tout petit peu plus généralisée. En fait, il faut parler un petit peu de tout ce qui est le sonore. À la semaine du son, c'est une chose qu'on a énormément à cœur. On est une association qui tourne sur tout ce qui est autour du son, donc pas seulement l'aspect santé. Hein. S'il y avait un seul mot-clé qui doit ressortir de cette étude, c'est éducation.
Merci beaucoup Jean-Louis Hurwiller, la semaine du son, donc toutes les infos sont en lien sur La Tête au Carré. Merci Axel, bon week-end.
Bon week-end Mathieu.
Et à lundi, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique. Un jour, nous étions tous gibbons. La découverte d'un fossile de petit singe vieux de 11,9 millions d'années en Espagne vient préciser nos origines communes avec les grands singes. Les humains et les grands singes auraient divergé d'un ancêtre commun ressemblant donc à un petit gibbon il y a environ 17 millions d'années. Ce nouveau fossile vient donc étayer cette théorie. Ils présentent de nombreuses caractéristiques communes aux deux groupes, notamment une très petite taille, proche de celle des gibbons actuels, mais avec une plus grosse tête et un plus gros cerveau. Son étude sera précieuse pour les paléoprimatologues parce que ces fossiles de gibbons anciens sont rares. Qui aura le plus gros accélérateur de particules? L'Europe et le CERN devront peut-être céder leur place de leader d'ici 2025 parce que la Chine va se doter d'un collisionneur présenté comme le plus grand jamais construit. L'annonce faite par le directeur de l'Institut de physique des hautes énergies chinoises n'a pas fait trembler pour autant les physiciens européens qui précisent dans un communiqué que des améliorations sont à l'étude du côté de Genève avec notamment un accélérateur de particules à très grande énergie comparable à celui envisagé par la Chine. Le premier design de l'accélérateur chinois sera révélé d'ici la fin 2016. Et puis pour finir, de tristes images de la fonte du Groenland filmées par drone. Le photographe Joss Hanner s'est rendu sur place avec une équipe de recherche et a réussi à capturer des images exceptionnelles du glacier groenlandais qui révèle un réseau de rivières sur la glace constitué par les eaux de la fonte. Des images inquiétantes mais néanmoins très belles que vous pouvez voir sur la page Facebook de La Tête au Carré. Allez, notre club dans un instant.
Jungle d'azur, de laine, sans rocher pousse ton lichen de laine. Que cache ton immensité? Que cache ton immensité? Bête de tôle, mais lesquelles qui crient quand siffle le nickel au ciel? Ces drôles n'ont plus de densité. Ces drôles n'ont plus de densité. Boïc, boïc, et tes mouvements lançons de majesté. Boïc, boïc, est-ce la faute de tes passagers indigestes? Si tu penses d'azur aux arbres pour passer l'ennui, tant de têtes de tes nuésures chimères, ces fantômes peuplent ta cité. Blanc jardin suspendu aux heures du jour, ta forêt de vapeur abrite notre monstre électricité. Notre monstre électricité. Boïc, boïc, et tes mouvements lançons de majesté. Boïc, 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 est-ce la faute de tes passagers indigestes? Si tu penses, boïc, boïc, et tes mouvements lançons de majesté. Boïc, 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 est-ce la faute de tes passagers indigestes? Si tu penses à gauche, enfin comme un vieil éléphant, à gauche à l'est, enfin, enfin comme un vieil éléphant. Boïc, boïc, et tes mouvements lançons de majesté. Boïc, 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 est-ce la faute de tes passagers indigestes? Si tu penses, boïc, boïc, et tes mouvements lançons de majesté. Boïc, 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 est-ce la faute de tes passagers indigestes?
Feu Chatterton sur France Inter et Boeing.
La tête au carré. Le club.
Oh, ça fait du bien ça.
Avec Mathieu Vida.
On va vous escorter, c'est plus prudent.
On les escorte, on y va, on les escorte, allez.
Sur France Inter.
Et dans le club aujourd'hui, on parle de la viande qui fait trembler l'assiette des consommateurs. Cette semaine, des photos inédites de Robert Doisneau, donc au Muséum, le festival de science-fiction des Utopias à la Nantes, et puis une main bionique en accès libre sur la toile. Mes invités, Claude Fischler, Alice Lemaire, Roland Lehoucq, Nicolas Huchet, et vos messages, bien sûr, toutes vos questions, franceinter.fr. Cette semaine, nos assiettes ont tremblé, et François Morel s'en est inspiré ce matin, d'ailleurs, dans la matinale.
Cette semaine, on a appris la dangerosité de la charcuterie. Manger du boudin tue. Déguster des rillons nuit gravement à votre santé. Les amateurs d'andouillettes meurent prématurément. Ce sont les avertissements qu'il faudra désormais inscrire sur l'emballage des charcuteries. Avaler du cervelas pendant la grossesse nuit à la santé de votre enfant. Arrêter le jambonneau réduit le risque de cancer colorectal. Faites-vous aider pour arrêter. Téléphonez au 39 87 15 centimes la minute.
Voilà, c'était ce matin dans la matinale, François Morel, qu'on remercie d'ailleurs, ça nous a un petit peu détendu hein, par rapport à cette publication, donc arrivée lundi, étude de l'OMS sur la viande et la charcuterie, classées respectivement comme cancérogènes probables et certains. Et je vous renvoie à notre une de la science d'ailleurs mardi pour les détails de cette étude. Claude Fischler, vous êtes donc sociologue et directeur de recherche émérite au CNRS. En tant qu'observateur des comportements alimentaires, qu'est-ce que vous vous êtes dit finalement en prenant connaissance de cette étude là du CIRC, le Centre International de Recherche sur le cancer.
Bah, puisque vous avez lancé...
Vous avez dit une de plus ?
Ah bah, je me suis dit, oui, j'ai regardé, j'ai consulté certains experts en qui j'ai toute confiance et j'ai conclu qu'il n'y avait aucune donnée nouvelle. Il s'agit de compilations de la littérature existante, c'est même pas ce qu'on appelle des méta-analyses. Mm-hmm. Et si vous voulez, il y avait eu un rapport il y a une quinzaine d'années du World Fund... pour la recherche sur le cancer, etc., qui déjà disait à peu près exactement les mêmes choses. Donc j'ai dit rien de nouveau sous le soleil de ce côté-là.
Le CIRC lui-même, en 2005, annonçait que la viande rouge accroissait les risques du cancer du côlon. Mais à l'époque, il n'y avait pas eu du tout la même émotion. Hein. C'est ça qui est étrange, au fond.
Je ne sais pas. Mais enfin, pour prolonger le gag de François Morel, moi j'ai presque envie de dire à quand la dénonciation de l'alimentation passive.
C'est-à-dire,
il y a le tabagisme passif.
Oui. Celui qui mange du boudin à côté de nous.
Si quelqu'un mange du boudin à côté de vous, ça va être dangereux pour vous.
C'est voilà. Ça. Bon, ce sera une autre vague, ça. Ce sera un petit peu plus
Alors,
tard.
Alors, il y a plusieurs explications. Si vous voulez, l'émotion qui est provoquée. Alors, cette fois-ci et pas la fois précédente.
C'est
peut-être
ça, pourquoi
que la diffusion n'a simplement pas été la même. Et moi, en effet, ce qui m'a un peu étonné, c'est le retentissement médiatique qui a été donné.
C'est vrai,
ça.
Hein. C'est une traînée de poudre, hein.
D'autant plus qu'il ne s'agit pas, si je comprends bien, d'un document qui est destiné, à première vue, à être diffusé pour orienter les comportements des individus. Il s'agit d'un document qui s'est dit, dans les Frequently Asked Questions, là, dans le FAQ, il incombe aux gouvernements nationaux et à l'OMS d'élaborer des directives nutritionnelles, ce n'est pas le boulot du CIRC, etc. Ouais. Donc il se borne à donner une information qui, dans l'état des choses, n'est pas traitable. Vous voyez, il faut des explications. Vous en avez obtenu vous-même dans l'émission il y a quelques jours.
C'est vrai, ouais, ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire, le risque, l'augmentation du risque? Qu'est-ce que ça représente, une augmentation du risque de 18%,
ouais.
Un risque relatif, on l'a dit dans l'émission précédente.
Par rapport aussi à la quantité consommée.
Ouais. C'est une augmentation infinitésimale du risque, n'est-ce pas? Et ensuite, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit d'une relation de cause à effet? Ou est-ce qu'il s'agit d'une association, et c'est le terme qui est toujours utilisé dans les traductions de l'anglais en particulier, c'est association, en fait c'est une corrélation c'est pas une relation de causalité, corrélation ça veut dire qu'il y a une coévolution, une covariation entre deux éléments, et il peut y avoir entre les deux des choses qu'on appelle des facteurs confondants. C'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, on pourrait trouver que la longueur des jupes est inversement corrélée à la hauteur des gratte-ciels, parce que dans les villes, on porte des jupes plus courtes que dans les campagnes.
Fallait trouver celui-là, quand même.
Je sais pas, mais... Bon, alors, en l'occurrence, il y a des substances suspectes qui sont essentiellement... Bon, alors, d'abord, il y a des questions de catégorisation. Vous avez remarqué que la viande rouge... Je sais pas pourquoi on la qualifie de rouge, parce qu'elle est définie comme toutes les viandes, sauf le lapin, je crois. Le lapin figure
pas. Oui, on sait pas pourquoi.
Voilà. Donc, rouge ou pas rouge, des viandes que nous appelons nous blanches, elles rentrent dans la catégorie viande rouge, etc. Et puis l'autre, on a dit les charcuteries, mais c'est processed meat, les viandes transformées, c'est-à-dire que ça inclut aussi sans doute les farces de raviolis industrie. industrielles, les sauces à la viande, des choses comme ça. Donc, ce sont des catégories qui sont un peu larges, un peu floues, qui correspondent pas exactement à nos catégories culturelles. Enfin, tout ça sème le doute.
Et qu'est-ce que ça dit de la difficulté, Claude Fischler, à communiquer justement sur des données sanitaires là, dans ce domaine de l'alimentation, qui sont particulièrement difficiles à recevoir pour le public, hein?
Elles sont d'autant plus difficiles à recevoir. Celles-là, elles suscitent quand même, en tout cas en France, une réponse relativement distanciée. Vous avez vu que bon, il y a un petit peu de résistance, si j'ose dire. Et s'il y a à la fois de l'émotion et ce genre de prise de distance, je pense que c'est parce qu'il s'agit pas de n'importe quel aliment.
C'est la viande, oui.
C'est la viande. Ouais. Et la viande, c'est un aliment qui est étroitement lié à, finalement, toute l'histoire de l'humanité, à l'hominisation elle-même. Mmh. Hein, on nous explique que nous devenons chasseurs, nous devenons chasseurs de gros gibier ou de petits gibiers, enfin nos ancêtres. Et à ce moment-là se pose la question du partage, de la répartition, de la transformation, etc. C'est-à-dire qu'en fait, l'organisation sociale elle-même est très étroitement liée au partage du gibier chez les chasseurs-cueilleurs que nous avons été pendant l'essentiel de l'évolution de l'homme. Donc on est là au cœur dans un aliment qui est absolument fondamental pour l'humain et qui a toujours été à la fois fondamental et ambivalent. Parce que la viande, c'est l'aliment adoré. Ouais. On considère même que c'est le super aliment dans la plupart des cultures, sinon toutes. Et c'est en même temps l'aliment ambivalent parce que c'est sur lui que portent les tabous, les interdits, le dégoût. Un psychologue social dans les années 40 avait montré que dans toutes les aversions les plus violentes observables, elles portaient la plupart du temps sur des substances d'origine animale. Mmh. Les tabous dans les grandes religions monothéistes et ailleurs, ça porte pas sur les navets ou sur les poireaux. donc, il y a quelque chose d'absolument central et un peu explosif, disons, dans le rapport à la viande, déjà.
Nicolas Huchet.
Donc moi, ma question, c'est, enfin, ce que je pense, c'est qu'on mange énormément de viande. Il y en a partout, voilà, et que je pense qu'il faut manger de la viande. Je dis pas que c'est une obligation, hein, je respecte tout le monde, mais que dans une alimentation saine, ça peut en faire partie. Par contre, bah, je pense qu'on en mange trop et que cette viande est produite et mal produite parce qu'elle est produite en masse.
Mmh. Mais on vit très bien sans manger de viande aussi, hein.
Oui, oui.
Il n'y a pas de problème particulier.
En tout cas, je connais des personnes qui font des régimes où on leur demande de manger un peu de viande de temps en temps.
Oui, oui.
Mais c'est juste que je pense qu'on en mange tout le temps, que la viande est produite en masse, qu'elle est mal produite, et je pense que ça vient de ça.
Ouais. Mmh. Alors, Claude Fischler, voilà, qu'est-ce qui vient de ça?
Ben, ce problème de ces maladies, en fait, c'est qu'on en mange trop et qu'elle n'est pas bonne. Donc, au bout d'un moment, il y a du dégoût.
Alors,
du corps qui rejette.
Ça, vous prenez tout de suite un point de vue normatif, vous donnez votre avis, faut-il, ne faut-il pas, etc. Mais c'est pas mon point de vue pour l'instant. J'essaye de regarder ce qui nous est présenté, à quoi ça correspond, quel rôle la viande joue dans l'histoire de l'humanité. Et en effet, la tendance à vouloir réduire la consommation de viande, sinon à la supprimer, c'est quelque chose qui monte.
C'est ça.
Dans nos sociétés développées depuis maintenant des années et quelques décennies.
Pour plein de raisons différentes d'ailleurs.
Plein de raisons différentes, des raisons certes sanitaires, des raisons environnementales, qui font l'objet de débats, qui font l'objet de prises de position morales.
Oui, oui. Sur la façon dont on traite les animaux, on en parlait hier
ici. Sur la façon dont on traite les animaux, sur la façon dont on va laisser quelque chose à nos générations suivantes de notre planète, sur la survie de l'espèce, sur tout cela. En l'occurrence, la publication de ce rapport et la réunion même des membres du rapport, du groupe d'expertise, ça correspond à une préoccupation qui n'est pas celle de nos pays développés, ou pas seulement. C'est-à-dire que d'abord, en France, je veux dire que la consommation de viande rouge, comme ils disent, en tout cas notre définition de viande rouge, c'est-à-dire par exemple de bœuf, pour les Français, la viande superlative, c'est le bœuf, ben elle stagne ou elle diminue depuis les années 80. Les quantités, etc., sont plutôt inférieures, semble-t-il, à ce qui est recommandé, mais là où le grand souci porte, et c'est dit explicitement dans le papier du Centre international de recherche sur le cancer, c'est la montée des pays émergents et la consommation prévisible qui monte. C'est vrai que dans l'histoire de l'humanité, chaque fois que la prospérité a augmenté, la consommation de viande a augmenté aussi. Les historiens prenaient ça comme marqueur, si vous voulez, de prospérité économique dans le passé. Donc qu'est-ce qui va se passer si les Chinois, c'est déjà commencé, les Indiens, c'est un peu différent parce que du côté du bœuf, c'est pas tellement leur truc, mais enfin, il y a d'autres substances carnées. Augmentent leur consommation en termes d'environnement, en termes de maladies, c'est à ce souci-là que ça correspond. Maintenant, si vous voulez, moi, ce que je peux observer, c'est que chez nos consommateurs contemporains, ici et maintenant, il y a quelque chose qui est absolument caractéristique, c'est ce qui ne fait qu'augmenter depuis des décennies, c'est une sorte d'anxiété sur de remise en cause radicale sur l'alimentation bah pour telle ou telle raison.
On nous dit jamais la même chose, c'est-à-dire que les messages qui sont délivrés sont hyper contradictoires.
C'est
quand
ce que j'appelle la cacophonie nutritionnelle, c'est-à-dire que il y a une véritable cacophonie du côté scientifique. Mm-hmm. Il faut dire que du côté scientifique, il y a beaucoup de postures et d'oppositions qui peut-être ne sont pas moins ou sont pas plus tellement plus rationnelles que celles d'autres domaines de la société. Il y a évidemment la compétition commerciale, il y a les médias, les répercussions, tout ça fait une cacophonie absolument assourdissante et dans laquelle on peut pas se retrouver. Ouais. Regardez, nous sortons d'un paradigme, comme on dit, de 30 ans de lipophobie, c'est-à-dire de haine du gras, où on nous a dit il faut absolument se méfier du gras, éviter le gras, etc. Et à force de recherche, on a vu que c'était beaucoup plus compliqué que ça, et que dans le gras, il y avait du bon gras, il y avait du gras essentiel, et qu'il y avait du gras qu'il fallait absolument consommer davantage, oméga 3, etc. Et puis, basculement, et maintenant, ce sont les glucides qui sont l'ennemi nutritionnel numéro un. Du jour au lendemain, pratiquement, du point de vue des consommateurs, il y a eu une couverture de Time Magazine il y a un an et demi, où d'un seul coup, on nous a annoncé « eat butter ». Après nous avoir dit pendant 30 ans qu'il fallait pas manger de beurre, qu'il fallait donc manger de la margarine, laquelle contenait en réalité des acides gras transsaturés, qui étaient pires que les gras, les acides gras saturés. Donc allez-vous y retrouver.
Ouais. Comment les consommateurs vont réagir à votre avis suite à cette étude? Ça va vraiment influencer leur façon de choisir leurs aliments?
Encore une fois, c'est un courant qui est déjà entamé. Là, on en a un exemple avec votre prise de position. Vous avez une prise de position à la fois sur l'environnement, sur la santé et sur la morale, qu'on retrouve de plus en plus. Là, elle est concentrée, les trois dimensions, Nicolas Huchet, dans une personne. Nicolas Huchet, voilà.
Et, vous nous
faites un bon exemple.
C'est ma vision. Je pense que on mange énormément de viande, qu'on est poussé à manger de la viande et que cette viande est vraiment produite en masse et je pense qu'elle n'est pas de bonne qualité. Voilà.
Alors, il y a une position d'un boucher que vous avez déjà entendu qui s'appelle, son nom m'échappe pour l'instant, qui dit que la viande doit rester ou redevenir un produit rare, cher, festif, et elle doit n'être que de qualité suprême. Ça, c'est une position. Ouais. Et à l'autre bout, il y a la position entièrement restrictive, l'évitement total.
Les véganes, par exemple, qui étaient avec nous hier, on en a parlé dans l'émission à l'occasion de ce sujet sur la souffrance animale. Claude Fischer, vous avez publié Les alimentations particulières en 2013 chez Audi Jacob. Vous restez avec nous, la suite du club dans un instant.
Come on, girl. it's me who always wants to meet. So come on, girl, come on, I'm bigger than rain.
Call Girl, FFS à l'instant.
Salut.
Le club.
Open bar toute la nuit, ambiance de folie, toute sortie définitive.
Sur France Inter.
Se laisse réfléchir.
La suite de notre club avec Alice Lemaire, Robert Doisneau, un photographe au muséum. Vous venez nous parler de cette exposition présente jusqu'en janvier à la Grande Galerie de l'Évolution à Paris et qui dévoile 128 photographies, un certain nombre de planches contact également. Vous êtes conservatrice à la Bibliothèque Centrale du Muséum National d'Histoire Naturelle et co-commissaire de l'exposition. On lisait tout à l'heure pour la plupart des photos qui n'avaient jamais été montrées au public.
Oui, c'est ça. En fait, ces photos ont été faites en 42-43 par Robert Doisneau. Ensuite, elles ont été un petit peu oubliées, sans doute parce que il est plus connu, lui, pour d'autres choses. Il est plus connu comme photographe de l'enfance, du Paris pittoresque. Enfin, on s'explique pas bien pourquoi, mais toujours
même si on retrouve des enfants aussi dans ces clichés.
Oui. En tout cas, ces photos n'ont pas été publiées, quasiment pas. Elles sont restées inédites jusqu'en 1990.
Ouais. Donc vous les aviez conservées dans vos tiroirs, hein ?
Oui, alors pas moi à l'époque, ouais, mais elles étaient à la bibliothèque, mais inexploitées. Enfin, on savait qu'on les avait, mais pas si bien que ça, puisqu'en 1990, quand pour le coup alors la première commande, c'était pas une commande du muséum, enfin peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais en 1990, c'est à la demande du muséum que Robert Doisneau est revenu faire un retour sur le lieu de son premier reportage. Et là, à cette occasion, il y a eu une exposition qui a été faite à la bibliothèque aussi déjà, et avec des photos qui ont été retirées à partir des négatifs que lui conservait dans son atelier. Mais à l'époque, on avait apparemment pas conscience que les tirages originaux étaient aussi à la bibliothèque, puisqu'ils n'ont pas été montrés à cette époque.
Ouais. Qui a commandé alors la première exposition en 42?
Alors non, là, ça c'était un reportage, pas une exposition. En 42, c'est une commande de Maximilien Vox, qui était un éditeur, qui était aussi le frère de Théodore Monod, qui était un grand typographe, enfin quelqu'un qui avait une place très importante dans le monde des lettres, et qui était à l'époque chargé de faire un album de propagande à la gloire de l'intelligence française dans tous les domaines, malgré la défaite. Donc c'est quelque chose dont on n'a plus beaucoup parlé ensuite. Et Doisneau lui-même disait que bon, c'était un petit peu normal qu'on parle plus trop de cet ouvrage, qui néanmoins est un bel ouvrage au sens livre. Enfin, c'est un bel objet qui bénéficie d'une très belle maquette, d'une belle typographie, et qui montre toutes les réalisations françaises dans tous les domaines. Et on a aussi pour la science les Joliot Curie, enfin bon, c'est quelque chose. Et dans ce livre-là, il n'y a qu'une seule photo du muséum. Donc, avec Annette Doisneau et Francine de Roudil, qui sont les co-commissaires de l'exposition avec moi, qui sont responsables de l'atelier Robert Doisneau, on s'est interrogé sur pourquoi on a des centaines de clichés réalisés en 42-43, alors que dans le livre publié en 42, on n'a qu'une seule image du muséum. Et en réalité, il y avait un deuxième livre qui était en projet, qui aurait dû s'appeler « Visage de la science » et qui, lui, n'a jamais été publié. Et donc, c'est tout ce matériau-là, toutes ces photos qui montrent des scientifiques au travail, qui était vraiment le projet qui motivait les visites de Robert Doisneau, qui est là, enfin exposé dans sa quasi-intégralité à la Grande Galerie de l'Évolution.
Ces photos prises donc pour la première partie en 42, dans un contexte évidemment tout à fait
42,
particulier,
43,
au sein du muséum. Qu'est-ce qui se passait donc en pleine guerre à ce moment-là? Les gens travaillaient normalement?
Alors oui, les gens travaillaient Bon, pas tout à fait normalement, mais néanmoins la science ne s'est pas arrêtée. Les collections avaient été dans un premier temps évacuées, et puis quand Doisneau a eu l'occasion de venir, elles étaient progressivement réinstallées dans les laboratoires et dans l'herbier. Et puis les personnes qui étaient là, évidemment, vivaient la guerre au quotidien. Les scientifiques avaient été pour la plupart mobilisés, certains emprisonnés. Le professeur Arambourg, par exemple, le professeur de paléontologie, a été emprisonné jusqu'en 41. Il était à peine de retour au moment des prises de vue. Et puis le plus dramatique en ce qui concerne le muséum, c'est vraiment tout ce qui s'est passé au musée de l'homme, qui dépend toujours du muséum d'histoire naturelle, et au musée de l'homme en 1942, le réseau
de résistance
dit du musée de l'homme a été démantelé. Ouais. Les chercheurs et les personnels du musée de l'homme qui en faisaient partie ont été arrêtés. Certains fusillés au Mont-Valérien, comme Boris Vildé et Anatole Levitsky. Et puis d'autres déportés, comme la bibliothécaire Yvonne Audon. Donc, quand Robert Doisneau vient au Musée de l'Homme, il photographie les personnes qui sont là. Mmh. Et donc, dans ces photos, évidemment, ça ne se voit pas, mais notre regard d'aujourd'hui le voit, et ces photos sont chargées bien sûr d'une grande émotion.
On va retrouver Robert Doisneau, alors là, pour la seconde partie en fait de son travail, en 1990, dans les couloirs de Muséum, avec une visite en compagnie de Daniel Mermet. Tiens donc.
Ça, c'est magnifique. C'est une nouvelle boîte d'insectes donnée au professeur Janet, une joie toujours renouvelée. C'est vous qui, évidemment, qui mettez les légendes.
Ça, bien sûr, il y a toujours une petite malice. Comme c'est la façon dont l'ignorant se défend devant des gens de la connaissance, c'est très, très importante. Et alors, là, vous voyez, ce professeur Janel, qui est toujours assez solennel, chaîne de montre, hein, toujours.
Oui, tout à fait, Ginette.
Oui. Il était très bien, ce monsieur-là. Et alors, la quantité de boîtes avec des petites bestioles dedans, c'est ça qui est merveilleux, parce que c'est vraiment la connaissance qui ne risque pas de faire péter la terre, alors qu'il y a des tas de savants fous qui risquent de nous envoyer en éclats à travers l'univers, mais là, non. Ce qui caractérise, toutes les recherches des muséums, c'est qu'elles sont extrêmement pacifiques.
Voilà, Alice Lemaire. C'est très beau ce que dit Doisneau. C'est le regard qu'il porte, hein, et qu'on ressent dans ces photos, extrêmement tendre et bienveillant.
Oui,
aussi.
Oui, je suis très heureuse d'entendre cet extrait. Parce que justement, oui, c'est ça. Et quand il est arrivé, il est vraiment venu avec son regard émerveillé sur ce muséum qu'il voyait, lui, comme une lapinière percée de terriers qui porte des enseignes mystérieuses. C'est ce qu'il a écrit dans ses souvenirs. Et oui, et sur le pacifisme aussi, effectivement, puisque c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les laboratoires pouvaient passer à l'époque un peu comme des refuges, où le travail scientifique se poursuivait, et à l'extérieur, c'était la guerre et l'occupation.
Ouais, ce qui est très amusant, au-delà de la beauté des photos, qui sont vraiment très émouvantes sur les deux périodes d'ailleurs, hein, 42 et 90, c'est vraiment l'intitulé aussi, le titre qu'il donne lui-même à ces photos.
Oui, c'est ça, parce que nous avons beaucoup de chance pour cette exposition, c'est que Robert Doisneau, à l'occasion de l'exposition de 90, a pu légender certaines images. Et donc, les choix qu'il fait de titres ajoutent à la poésie des photos.
La girafe et son coiffeur, par exemple, l'auscultation d'un chimpanzé fiévreux. Mm-hmm. Il y en a énormément comme ça, un physicien dans le vent, et puis vraiment des clichés extraordinaires. Les enfants et la baleine, par exemple, on voit des enfants, là c'est dans les années 90, hein, qui visitent le musée, et on retrouve, c'est incroyable, dans le regard des enfants, la touche de Doisneau.
Oui, tout à fait.
On ne peut pas se tromper. Il y a aussi des choses sur la transhumance des squelettes dans la galerie d'anatomie comparée. Il y a une zoothèque, on voit des mammifères qui semblent discuter entre eux, hein, qui sont absolument magnifiques. Le parc zoologique de Paris aussi, on voit la foule des grands jours en 53, là, c'est un petit peu plus tard.
Oui.
Et puis, toutes ces photos, on voit Doisneau aussi rentrer dans la cage au lion, hein, c'est ça, parce qu'il a suivi toutes les personnes qui travaillent auprès des animaux au zoo.
Oui, c'est ça. Justement, il a dit dans ses souvenirs, dites-moi quelle autre profession m'aurait permis d'entrer dans la cage au lion du zoo de Vincennes. Bon, il se trouve que ce lion-là n'avait pas l'air
très dangereux,
mais tout de même.
Et puis on voit la science en train de se faire aussi, évidemment, avec l'expérience de greffe, de régénération sur les reptiles et les poissons. Des choses magnifiques. C'est une très très belle exposition qu'il fallait voir donc en ce moment. En plus, c'est dans la grande galerie de l'évolution, donc dans un lieu qui accueille les photos de Doisneau. Et c'est jusqu'au mois de janvier, donc on a encore un petit peu de temps pour aller voir ce travail. Et grâce à vous, que vous nous montrez donc jusqu'au mois de janvier 2016.
La tête au carré. Le club. Sur France Inter.
On a retrouvé Roland Lehoucq à Nantes pour les Utopiales. Bonjour Roland.
Bonjour Mathieu, bonjour à vous.
Vous allez bien? Ça se passe bien,
oui,
cette nouvelle édition?
Les utopiales sont sur la rampe de lancement déjà depuis jeudi, ça accélère et on sera en orbite je pense ce soir ou demain matin normalement.
Bon, 16e édition, ouverte au public jusqu'à dimanche, lundi pour les scolaires. La science-fiction évidemment au cœur de ce festival, avec du multimédia, de la BD, des mangas, du cinéma bien sûr et des jeux vidéo.
La littérature aussi, les jeux vidéo évidemment,
oui.
Et tous les supports de la science-fiction et de l'imaginaire sont représentés aux utopiales.
Ouais. Alors quelle est la frontière entre la science et la science-fiction, comment vous arrivez à coordonner les deux au fond?
Alors finalement, il y a une frontière, on peut venir, disons, de la science dure ou la science-fiction, l'imaginaire pieuse dans la science dure pour essayer d'avoir des éléments de décor, si j'ose dire, des éléments de réflexion aussi, puisque la science-fiction, à mon sens, c'est d'abord une sorte d'expérience de pensée qui discute des conséquences sur les humains, sur les sociétés, des progrès scientifiques et techniques. Mmh. Et puis ça, c'est le côté la science-fiction qui pioche finalement dans la science pour s'inspirer de diverses choses. Et puis la science, l'intérêt qu'elle a dans la science-fiction, à mon sens, c'est précisément cette influence de pensée qui permet finalement d'humaniser, qui permet de mettre de l'émotion, de l'empathie dans les progrès, dans les découvertes des scientifiques et techniques, et qui permet de les mettre en scène finalement et d'interroger leurs conséquences dans un cadre très libre, très, très imaginaire. Là, on n'est pas dans les salons feutrés des comités d'éthique qui réfléchissent très sérieusement évidemment sur les choses à faire ou à ne pas faire, les choses acceptables ou pas acceptables à un moment donné. Là, c'est vraiment totalement débridé et ça permet de poser des grosses questions, de bonnes questions, et qui sont, chaque auteur y trouve une réponse qui n'est jamais ce qui sera la réponse finale, mais qui permet de s'interroger.
Alors la grande question que vous posez cette année, qui est au cœur donc de cette nouvelle édition des Utopiales, c'est la question du réel au fond?
La question du réel, exactement. Cette année, le thème, c'est réalité. Et évidemment, la science s'intéresse à la question de la réalité. Qu'est-ce que la matière, de quoi est-elle faite? Pourquoi est-elle dure? Pourquoi est-elle impénétrable? Par exemple, l'univers, qu'est-ce que c'est que l'univers? Quand on parle de l'univers, c'est quoi cette entité? L'univers existe-t-il, entre guillemets? Et d'une certaine façon, c'est une question qui rappelle à la fois la science, évidemment, qui appelle à la fois la science, mais aussi la philosophie, l'épistémologie. Il y a les univers virtuels, évidemment, qu'on connaît maintenant. On parle de numérique, on parle de réalité augmentée, de réalité virtuelle, qui se pénètrent, qui se mélangent, et pour les générations qui naissent en ce moment, c'est tout à fait les deux sont disons, sur le même pied d'égalité, ont le même rôle à jouer. Les univers intérieurs, les mondes intérieurs, les réalités, la psychoréalité, on pourrait appeler ça psychoréalité, et puis en science-fiction aussi quelque chose qui est une discipline, un genre plutôt très important, qui est l'uchronie, les réalités alternatives, et si l'on modifie un peu le passé, si l'on modifie un peu l'histoire, qu'est-ce que cela aurait pu donner? Bref, toutes ces voies qui sont pas sans rapport avec, disons, le conte philosophique, un peu à la Micromégas de Voltaire. On a le point de vue de Sirius, on a un point de vue différent, on fait un pas de côté pour finalement discuter d'autres mondes d'ici et maintenant.
L'homme augmenté, tiens, l'homme et la machine justement, puisqu'avec nous en studio aujourd'hui, Roland Lehoucq, on a Nicolas Huchet qui travaille donc sur une main bionique. Vous en parlez, vous, à la Cité des Congrès ou pas?
Alors évidemment, nous on a un partenaire scientifique qui est l'INSERM et qui est venu avec un certain nombre de ses chercheurs. Et on a eu ce matin, j'ai participé à une table ronde sur les matériaux de la science-fiction, les matériaux réels de notre vie. Et il y avait un scientifique de l'INSERM qui nous parlait de bioprinting, l'idée que l'on puisse finalement imprimer en 3D, comme une imprimante 3D, des tissus biologiques. C'est quelque chose qui est pas tout à fait de l'ordre de la fusion homme-machine, parce que là il s'agit vraiment de réparer, de transformer des tissus biologiques par une méthode qui rappelle l'impression. Et donc là on constate qu'effectivement l'homme augmenté, l'homme bionique, la transformation de l'homme par la technique, à la fois par les techniques externes, ça peut être le téléphone portable, l'ordinateur ou tout ce qu'on veut, mais ça peut être aussi des transformations internes par des greffes, par du bioprinting, par des prothèses qui transforment, réparent, améliorent l'humanité. Voilà, ces questions sont posées évidemment aux utopiales. Est-ce que ce sont des choses réelles, des choses possibles, des choses plausibles qui arriveront dans quel temps, dans quel moment peut-on voir leur arrivée? Voilà, elles sont discutées dans la science-fiction évidemment, aux utopiales évidemment, par le biais de la science-fiction et grâce aussi aux scientifiques
écoutez,
qui sont invités à cette occasion.
Nous, on a un invité qui prouve qu'on est déjà bien dans le réel, Nicolas Huchet, justement, avec cette main bionique.
Oui, on est dans le réel. Après, la petite différence que l'on a, nous, c'est que on n'a pas cette vision aussi futuriste. On est plus sur la réparation de l'homme par lui-même. Mm-hmm. C'est ce qu'on prône, dans le sens où l'homme se répare physiquement, il se répare aussi mentalement. On parle de réparer l'estime perdue avec un accident. Enfin, mm-hmm. Dans mon cas, moi, c'était ça. Et puis, il y a une vision sociale aussi. C'est la santé pour tous.
Ouais. Voilà. C'est l'autonomie pour la personne handicapée. Et puis, c'est ici et maintenant, surtout. Hein. C'est pas justement le projeter dans des dizaines d'années. Hein.
C'est ce qui se passe maintenant avec notre projet donc de l'association My Human Kit, qui est donc de transformer le projet de la main bionique en 5 projets phares qui sont la fabrication d'un fauteuil roulant, une technique auditive, des aides techniques auditives pour des personnes sourdes ou malvoyantes.
On va en parler avec vous dans un instant. Mais voyez, Roland, on a une bonne illustration en tout cas des sujets qui seront évoqués chez vous.
La main bionique, quand on pense à la main bionique, on imagine évidemment la main qui a été remplacée à Luke Skywalker dans Star Wars, qui s'est fait trancher sa main par le sabre laser de Dark Vador. Et donc voilà, ça imagine. On a tout de suite ça qui vient quand on est amateur de science-fiction, et évidemment des choses plus concrètes, plus réelles, qui sont en développement, comme celle de votre invité.
Merci beaucoup, Roland Lehoucq. Les Utopiales.
Merci à vous.
À Nantes, bien sûr, à la Cité des Congrès jusqu'à dimanche, et puis utopial.org, le site internet pour tout savoir de ce qui se passe donc en ce moment en Loire-Atlantique. Merci beaucoup. Allez, dans un instant, la main bionique, justement, on en parle.
Allô Paris, il est si tard, les gars collés au combiné, je relance encore avec l'espoir de te parler. J'ai beau savoir que ça me fout le cafard, je peux pas m'empêcher d'y croire. Quand la nuit sonne, ce dernier coup, j'irai jusqu'au bout. J'aurais voulu quelque chose de bien. J'aurais voulu debout sur le trottoir, comme chaque soir, je te raconte l'histoire des larmes de rue dans les bars qui puent, les regards moisis et les corps meurtris. Allons Paris, tout est fini, et putain, je suis fatigué. J'aurais voulu quelque chose de bien. J'aurais voulu que tu me dises bien. Mais tu ne te souviens plus de rien, tu oublies un peu plus. Chaque matin, ta mémoire coule le long des trottoirs. Oh, en noyant mon désir dérisoire. J'aurais voulu quelque chose de bien, j'aurais voulu.
Allô Paris et Mano Solo à l'instant.
Le club des têtes au carré. En partenariat avec TEDx Paris. Sur France Inter.
Voilà les conférences scientifiques de TEDx Paris et Nicolas Huchet, donc notre invité. Vous avez déjà eu l'occasion de vous frotter au public d'ailleurs, avec une mini-conférence. Et puis là, vous allez poursuivre dimanche au Châtelet.
Voilà, c'est ça.
Pour parler de votre main bionique.
Pour parler alors de la main bionique, qui est donc, juste pour faire un rappel, un travail collaboratif, donc qui mélange le projet InMove, les Fab Labs, des lycées, des bénévoles, des stagiaires, des ingénieurs. Mm-hmm. Donc moi je porte ce projet, mais je ne suis pas concepteur, d'accord. Et ce que je vais exposer dimanche, c'est à la fois ce qu'on peut faire avec... avec trois fois rien, avec de la bidouille et 300 euros.
Et beaucoup d'idées déjà au départ.
Bah, l'idée, en fait, les idées, souvent, elles existent déjà. Mais en fait, on se rend compte qu'il suffit des fois de mélanger le travail d'un mécanicien avec le travail d'un musicien pour se fabriquer, bah, dans mon cas, par exemple, une baguette de batterie. Aujourd'hui, je peux en jouer.
Ouais.
Donc, moi, mon rôle, il est plus là. Je suis pas un créateur, mais les idées, elles existent, elles sont là. Et l'idée, c'est d'être curieux. Et c'est comme ça qu'on a pu travailler ensemble. Et donc, j'ai cette image de quelqu'un qui a fabriqué sa main. Mais c'est pas ça.
Ouais.
Moi, je suis simplement une personne qui a besoin d'une prothèse, mais qui a un problème parce qu'une prothèse, ça coûte un bras, que j'ai voulu m'en fabriquer une. Voilà. Et il s'avère qu'il y a des solutions qui existaient. Il existait des mains robots, et moi, j'ai demandé de l'aide pour qu'on puisse peut-être l'adapter en prothèse.
Voilà. Alors, justement, en 2002, il faut raconter un tout petit peu votre histoire, Nicolas Huchet, pour bien comprendre. Hein, suite à un accident du travail dans l'usine où vous travaillez, vous avez été donc amputé de la main droite. Pendant 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, au fond, avant d'arriver à la découverte de l'imprimante 3D?
Bah, pendant 10 ans, j'ai retrouvé une vie normale en utilisant une prothèse de type basique qui est remboursée par la Sécurité sociale.
Ouais.
Elle a un mouvement basique, c'est-à-dire c'est seulement une pince. C'était tout ce qu'il y avait, parce qu'en fait, c'est un handicap qui est assez rare. Donc, il y a très peu de recherches. Les industriels ne veulent pas investir
d'argent.
Voilà, c'est comme ça. Et donc, au bout de 10 ans, il y a des nouvelles prothèses qui apparaissent, qui bougent tous les doigts, qui sont super. Et là, je les veux, mais je me rends compte qu'en fait, ça coûte 40 000 euros et que celle que j'ai, en fait, en même temps, je prends conscience que j'ai jamais payé. Parce qu'en France, il y a la Sécurité sociale, justement. Et donc là, je suis très frustré, quoi.
Et vous êtes pas très en colère aussi, hein?
Ouais, je suis énervé. Et puis, de toute façon, même d'une façon générale, du monde qui est un peu déstabilisé, quoi. Puis, je suis comme tous ces 20, 25, 35 qui cherchent leur place, qui ont envie de faire quelque chose de leur vie, quoi. Je suis là d'ailleurs pour dire que les jeunes ne sont pas feignants et qu'ils ont envie de travailler, mais c'est juste qu'ils ne savent pas dans quoi. Voilà.
Petite parenthèse.
Ouais, parenthèse. Et donc, un jour, je découvre le monde des Fab Labs, donc des lieux de fabrication où on peut prototyper. Et quand j'ai vu une imprimante 3D, je leur ai demandé, mais est-ce qu'on peut pas faire une main avec ça?
Ouais.
Et c'est comme ça qu'on a vu des modèles open source sur Internet. Open source, ça veut dire disponible à tous gratuitement. Et qu'on a vu le projet InMove, qui est un robot open source. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler en réseau.
Ouais. Et là, ça a complètement changé votre vie, au fond, et cette façon dont vous avez pu aussi devenir acteur, hein, de ce que vous aviez, de ce handicap. Hein.
Bah ouais, mais c'est ça qui est génial, c'est que d'un seul coup, moi, au départ, je suis une personne en situation de handicap, mais aujourd'hui, je me considère plus comme expert en main bionique. Donc ça change toute la chose, en fait. J'ai trouvé une raison à pourquoi ça m'était arrivé. Et c'est le message que je veux passer, qu'on veut passer, parce qu'en fait, c'est avec un petit peu d'audace et puis du collectif humain, qu'on peut dépasser finalement les limites, quoi.
Ouais.
Et c'est ça qu'on veut faire. On veut reproduire mon histoire avec toutes les personnes qui ont un handicap, qui pourront finalement fédérer une équipe autour d'elles et se réparer et puis vivre ensemble.
Et vous êtes déjà rentré dans l'histoire d'une certaine manière, puisque votre prototype est exposé au Musée de l'Homme, c'est
donc,
ça?
Donc voilà, c'est le prototype InMove, open source, ouais, qui est au Musée de l'Homme, qui est donc...
Dans la partie de l'homme augmenté, justement.
Voilà, c'est ça, qui est mélangé avec les autres prothèses, justement, des entreprises. Et c'est vrai que c'est une consécration pour tous ceux qui ont travaillé là-dessus. Je veux dire, il y a quand même eu des concepteurs, des designers, artistes, jusqu'aux lycéens qui ont travaillé sur cette prothèse qui est dans la vitrine du Musée de l'Homme.
Ouais.
Donc c'est ça qui est super, c'est que ça casse les barrières de l'ingénierie jusqu'à l'étudiant. Et tout le monde a participé dessus, quoi.
Alors, cette association My Human Kit, qui est lauréate du Google Impact Challenge, c'est un concours donc lancé par Google. Alors, qu'est-ce que vous avez remporté donc vous avez été perdant, mais vous avez gagné beaucoup d'argent, en fait, c'est ça, hein,
voilà,
ce qui s'est passé.
Donc notre association a été sélectionnée parmi 280, et puis elle s'est retrouvée en finale avec 9 autres associations, donc 10. Et sur ces 10 associations, il y avait 4 lauréats qui allaient gagner 500 000 euros. On n'a pas gagné, mais à la grande surprise de tous, Google a dit, puisque tous les projets sont super, vous allez tous repartir avec 200 000 euros chacun.
Voilà.
Et l'accompagnement Google.
C'est bien, donc, Google, c'est donc, facile de signer.
On a pleuré, mais on a pleuré 10 secondes. Quoi. On n'a même pas eu le temps de sortir les mouchoirs, en fait.
Ouais, c'est ça, puisqu'on vous avait proposé 200 000 euros juste après. Donc, vous allez vous servir pour faire quoi, alors?
Alors, maintenant, en fait, il s'agit de passer à une étape un peu plus sérieuse, qui va être, on va salarier des personnes.
Mm-hmm.
Donc là, on veut salarier 2 personnes, on va arrêter un petit peu le bénévolat. On va salarier 2 personnes, dont je vais sûrement faire partie, pour développer ce projet de My Human Kit, qui va être donc de développer dans un premier temps 5 prototypes, donc d'aide technique au handicap,
donc la main, le fauteuil roulant,
la main bionique, un fauteuil roulant open source, un fauteuil roulant, un gant sonar pour personnes malvoyantes, et des aides auditives, voilà, pour ressentir le son ou mieux entendre.
Donc l'idée, ce serait par exemple de pouvoir se fabriquer son fauteuil roulant en fonction de ses besoins et de son handicap, vraiment un modèle totalement sur mesure qui coûterait évidemment beaucoup moins cher que ce qu'on trouve aujourd'hui dans le commerce.
Et c'est exactement ça. Nous, en fait, il existe déjà des solutions qui sont sur Internet, qui sont documentées, qu'on appelle open source. Donc, nous, on veut les fabriquer et on veut les documenter également en français pour que, par exemple, au Fab Lab de Ouagadougou, eh ben, on puisse le fabriquer et que les personnes puissent fabriquer un fauteuil roulant avec des tuyaux de PVC, avec des roues de vélo, et le tester et dire ben, ça marche ou ça marche pas, et l'adapter suivant les personnes. Ouais. C'est ça, dans un premier temps, vraiment qu'on veut faire. Quoi.
Nicolas Huchet, pour tous ceux qui vous entendent, les plus jeunes en particulier, qui sont peut-être avec leur propre handicap, comment on peut vous rejoindre pour essayer de participer à l'aventure et puis aussi mettre justement toutes les disponibilités en place pour avancer et construire ces objets?
Alors là, on a mis en place myhumankit.org. pour garder contact avec les personnes qui veulent soit nous aider, soit s'auto-réparer, ou soit simplement être au courant. Et la deuxième chose, c'est le blog qui s'appelle bionico.org, pour avoir des informations sur mon projet, ou aussi faire un don à l'association, c'est possible.
Ouais. Voilà. Donc pour vous rejoindre et devenir acteur, donc, hein, et totalement plus autonome en tous les cas, idées, cette nouvelle façon de faire.
On parle de handicap empowerment. Ouais. C'est transformer son problème en solution et de faire de ses limitations une motivation.
Et vous serez donc dimanche avec TEDx Paris sur la scène du Châtelet. Ce sera toute la journée avec beaucoup de conférences. On peut voir également la conférence que vous aviez déjà donnée en ligne sur le site de TEDx Paris, qui est en lien évidemment sur La Tête au Carré, et puis toutes les vidéos des autres scientifiques, puisque nous sommes en partenariat dorénavant avec les équipes de TEDx Paris. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci
et
beaucoup.
Bon week-end. Merci.